Merci pour m'avoir invité à prêcher ce matin. C'est un texte qui parle beaucoup à moi, dont moi j'ai vraiment besoin aussi. Donc j'espère que c'est utile pour vous. Nous sommes dans le livre de Daniel. C'est un message que j'ai apporté il y a quelques semaines à l'église de la rue du Moniteur à Bruxelles, dans notre série sur le livre de Daniel. C'est vraiment une histoire magnifique. J'espère que le message c'est utile pour vous. Je vais juste signaler, il y a un petit problème dans différentes versions où les versets, les chiffres sont un peu différents. Donc dans ma version, ça commence à chapitre 3, verset 31. Mais je pense que dans certaines versions, ça commence à ailleurs, mais c'est le passage qui commence avec « Le roi Nebuchadnezzar adresse à ce message ». Donc, c'est peut-être le début de 4-1 dans certaines versions. Donc, désolé pour ça, mais oui, donc voilà, ça c'est 4, oui, c'est ça, parfait. Je vais lire la version sur l'écran, de toute façon. Donc, voilà, on a besoin de l'aide du Seigneur avant de lire sa parole, donc prions. Oui, merci Seigneur pour ta parole, merci pour cette histoire cette histoire bouleversante, mais magnifique aussi, que nous allons lire dans quelques instants. Et Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Moi, j'ai vraiment besoin de ton aide ce matin, de pouvoir expliquer ce passage et que tu sois à l'œuvre par ton esprit à travers ta parole, que tu puisses parler à nos cœurs, que nos vies soient renouvelées et transformées par le message de ce passage, et que nous puissions plier le genou devant Jésus ce matin. Et je prie au nom de Jésus. Amen. Avez-vous parfois le sentiment que d'autres personnes essaient de contrôler votre vie? D'autres personnes pensent qu'ils sont supérieurs ou qu'ils sont au centre de l'univers? D'autres personnes pensent exercer une autorité sur vous. Il y a des exemples extrêmes dans le monde. Par exemple, le dictateur de la Corée du Nord, Kim Jong-un, qui a le contrôle politique, militaire et économique du pays. Il se voit comme la troisième personne d'une sorte de trinité philosophique. C'est incroyable. On l'appelle une grande personne née du ciel. Ceux qui sont vus comme une menace à son pouvoir sont souvent jetés dans les camps de concentration ou même exécutés. Mais il y a d'autres personnes plus proches à nous qui agissent parfois en petits dictateurs et qui dérangent nos vies de façon plus immédiate. Parfois ce sont des politiciens corrompus qui font des décisions bêtes et égoïstes pour notre pays. Peut-être qu'on a peur de la menace des terroristes qui pensent exercer un contrôle psychologique sur notre société. Peut-être c'est votre chef de travail qui abuse de son pouvoir et profite de ses employés pour ses propres fins égoïstes. Et en tant que chrétien, c'est même pire parfois. Des chrétiens risquent parfois de perdre leur travail s'ils ne se taisent pas concernant leur foi. Ça arrive. Et les médias cherchent à nous contrôler, à nous influencer, nous manipuler, afin que nous nous conformions aux valeurs séculières. Et parfois, c'est simplement un membre de nos familles qui essaie de nous influencer et qui pense qu'il a toujours raison, par exemple. Ça arrive. Donc la question aujourd'hui, c'est comment résoudre le problème des dictateurs grands et petits dans nos vies. Comment résoudre le problème des dictateurs? Le livre de Daniel, c'est l'un des livres bibliques qui, je pense que, avec lesquels nous nous identifions la plus facilement. Dans la plupart de l'Ancien Testament, on a affaire à la nation d'Israël, une nation qui, au moins en principe, est censée reconnaître l'autorité du vrai Dieu. Mais ici, dans le livre de Daniel, les Juifs ne sont plus dans la terre promise. Ils sont en Babylone, sous le contrôle d'une puissance païenne. Et à partir de ce moment, le peuple de Dieu ne sera jamais à nouveau une nation indépendante. Avec Daniel, nous entrons dans l'ère des dictateurs. Comme les Juifs en exil en Babylone, nous sommes aussi dans l'ère des dictateurs. Nous devons vivre sous l'autorité des personnes qui ne respectent pas l'autorité de Dieu, qui essayent de contrôler nos vies pour leur propre gloire. Dans le livre de Daniel, c'est extrêmement utile parce qu'il connaît bien des dictateurs. Dans Daniel, on n'est plus dans la terre promise. On est dans un monde franchement effrayant. Des dictateurs qui contrôlent quasiment le monde entier. Des rois qui construisent des énormes statues d'eux-mêmes. Et si on refuse de les louer, on est jeté dans une fournaise ardente. Ou des rois qui gardent les lions dans une fosse. Et qui jettent ceux qui refusent de les louer comme un dieu. C'est effrayant ce monde. Oui, c'est l'ère des dictateurs. Et nous allons voir dans Daniel 4 ce que Dieu fait avec l'un des plus grands dictateurs qui a jamais vécu, le roi Nebuchadnezzar. Et nous allons voir la réponse à notre question. Comment résoudre le problème des dictateurs? Je vous invite à retourner avec moi au 6e siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes à Babylone, la capitale de l'empire le plus énorme et puissant de l'époque. Imaginons que nous entrons dans le salon d'un homme babylonien ordinaire. Nous l'appellerons Ashpenaz. Oui, c'est un vrai prénom babylonien. Il est assis devant sa télé avec son esclave hébreu. Nous l'appellerons Joseph. Et le présentateur dit, le roi Nebuchadnezzar est sur le point de faire sa première annonce télévisée depuis longtemps. Il vient de revenir après avoir mystérieusement disparu, sans explication. Tout l'empire se trouve devant leur télé, tendu pour écouter le roi. Oui, en réalité, c'était probablement une lettre, pas une annonce télévisée, mais cette petite mise en scène vous aide à imaginer la situation. Nebuchadnezzar, donc, il se tient devant la caméra. Lisons le début du passage. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes langues qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Ashpenaz crie, quoi? Le Dieu très haut? L'homme le plus puissant du monde vient de louer le Dieu des Juifs? Joseph, notre ami juif, il est aussi également stupéfait. C'est pas exactement ce qu'on attend d'un dictateur païen. Et donc Joseph se souvient bien de la carrière du roi jusqu'à là. Il a détruit le temple des Juifs. Il a exilé les Juifs. Il a même, dans le chapitre 2 et 3, il a laissé partir deux opportunités de se repentir devant Dieu. Son cœur reste endurci. C'est pas exactement un croyant, cet homme-là. Donc, d'où vient cette annonce qu'il vient de faire? Ça vient apparemment de nulle part. Dieu est maintenant son Dieu, le Dieu très haut. Nebuchadnezzar a expérimenté la puissance et même la grâce de Dieu d'une manière personnelle. Il dit ce que Dieu a accompli vis-à-vis de moi. Et peut-être même plus étonnant, le roi reconnaît que Dieu est celui qui règne, que son royaume est éternel. C'est impressionnant le changement qui s'est produit là. Et c'est un peu comme imaginer que Kim Jong-un décide tout d'un coup de faire une annonce au monde entier. En regardant l'émission télévisée, vous êtes étonné de voir que Barack Obama se tient juste à côté. Le dictateur coréen annonce avec enthousiasme que désormais que son pays aura des élections démocratiques, que ses frontières seront ouvertes aux touristes et qu'il vient de signer un traité de paix avec les États-Unis. Puis il sourit chaleureusement et serre la main d'Obama. Un peu ridicule, mais ça aurait été le même genre de choc lors de l'annonce de Nebuchadnezzar. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le roi païen, le pire dictateur du monde ancien, devienne un adorateur du Dieu très haut? Il va nous apporter un flashback qui va nous éclairer sur sa métamorphose. Lisons à partir du verset 4. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu, se présente devant moi Daniel, nommé Belshazzar d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Donc l'histoire commence doucement. Nebuchadnezzar est tranquille chez lui, en train peut-être de boire un cocktail de fruits des jardins suspendus de Babylone, tandis qu'il regarde la vidéo de l'une de ses exécutions préférées, ou je sais pas ce que les dictateurs font dans leur temps libre. Mais cette nuit-là, sa tranquillité est brisée par un cauchemar effrayant. Saisi par la peur, il convoque tous les magiciens de Babylone, mais ils sont inutiles face à un véritable événement divin. Notre ami Joseph, devant la télé, il commence à rigoler. Oh, votre roi n'est pas si puissant maintenant. Et Ashpenaz, l'homme babylonien, ne sait pas quoi dire. C'est vrai. Le roi, l'homme le plus puissant du monde, est devenu un peu comme un petit enfant, effrayé, terrifié, tenant désespérément à ses superstitions. Et enfin, le roi est si désespéré qu'il n'a aucun choix que de consulter la honte à un esclave hébreu qui a déjà pu interpréter un autre rêve dans le chapitre 2. Lisons donc à partir de verset 10. Nebuchadnezzar dit, « Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. La bête des champs s'abritait sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur bête lui sera donné et 7 temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Donc, dans le rêve, on commence avec un arbre d'une taille impossible. Apparemment, l'arbre le plus grand du monde, c'est en Californie, a une hauteur de 115 mètres. Impressionnant. Mais pour être visible partout dans le monde ancien, l'arbre devrait avoir une hauteur de plusieurs centaines de kilomètres. Le point, sa grandeur est sans pareil. Il est puissant, glorieux. Il est même capable de nourrir le monde entier. Cet arbre a presque le statut d'un dieu. Alors quel choc et quelle honte pour un tel arbre d'être abattu. C'est comme si le mont Everest s'écroulait tout d'un coup devant nos yeux, toute sa puissance et toute sa gloire écrasée, comme si c'était une petite taupinière sous son pied. Le grand chêne est devenu un tronc dans l'herbe. Et c'est une image puissante de l'humiliation. Notons aussi qu'à ce moment dans le rêve, l'arbre est décrit comme un homme qui perdra sa raison. Quel homme malheureux est ciblé par cette analogie? Nos deux amis, Ashpenaz et Joseph, ne peuvent pas arracher leurs yeux de l'écran, fascinés mais terrifiés. Ils savent exactement qui c'est, cet homme. Mais avant de passer à l'interprétation, juste examinons brièvement verset 17. On va y revenir, mais pour l'instant, disons que notre cher dictateur a deux leçons à apprendre. Je vais juste lire verset 17 à nouveau, au milieu du verset. « Afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. » On va y revenir, mais disons pour l'instant, voilà, il y a une leçon à apprendre là. Continuons. Lisons à partir de verset 19. On va écouter l'interprétation du rêve. Verset 19. « Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, « Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. » Et Belshazzar répondit, « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, « Abattez l'arbre, détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain. » Parmi l'herbe des champs, qui soit trempée de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que sept temps soit passé sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et sept temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il le fait. Voici la leçon répétée de nouveau. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Nos amis Ashpenaz et Joseph se trouvent de nouveau ébahis. Ils sympathisent avec la réaction initiale de Daniel. Stupéfait, terrifié, Daniel n'ose presque pas expliquer l'interprétation. Oui, l'homme le plus puissant et glorieux du monde est le cible de ce rêve. C'est lui qui avait atteint un niveau de puissance et de gloire sans pareil, comme l'arbre. C'est lui qui avait touché le ciel, qui est devenu presque comme un dieu. Et c'est lui qui sera humilié par Dieu. Et quelle chute! De l'apogée de la puissance et de la gloire jusque dans l'abîme de l'impuissance et de la honte. Lui qui habitait dans un palais habitera parmi les bêtes. Lui qui mangeait les mets les plus succulents et qui donnait à manger au monde entier. Lui, il mangera de l'herbe comme un animal. Lui qui avait presque touché le ciel se réveillera dans un champ, froid et trempé par la rosée du ciel. Pour nous aider à comprendre la magnitude de sa chute, on peut substituer n'importe quelle figure d'autorité dans la même situation. Par exemple, vous lisez demain dans le journal que Barack Obama, l'un des hommes les plus puissants et respectés du monde, a été trouvé dans un champ, mangeant de l'herbe avec les vaches. Ridicule. Ou si vous préférez, imaginez votre chef de travail dans la même situation, ou le directeur de votre école. Difficile à imaginer, mais c'est ce qui se passait ici. Et quel est le but d'une telle humiliation? La leçon était répétée dans verset 22, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. Son problème, ce n'était pas le fait d'être puissant et glorieux en soi. Le problème était le fait qu'il ne reconnaissait pas que Dieu a l'autorité ultime sur les êtres humains, y compris sur les rois. Il croyait que sa puissance venait de lui-même. Il croyait que sa gloire était pour lui-même au lieu de pour Dieu. La folie d'un dictateur est de croire que lui a l'autorité absolue, tandis qu'il n'est qu'un petit instrument faible entre les mains du Dieu qui contrôle l'univers. Sa puissance et sa gloire sont que des cadeaux de Dieu. Et nous lisons par la suite que c'est justement ça le problème du cœur de Nebuchadnezzar. Lisons à partir de verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies pour le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. » On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Le diagnostic de Dieu était juste. Nebuchadnezzar avait apparemment ignoré le conseil de Daniel de se repentir de son orgueil. Et 12 mois plus tard, il se promène sur le toit de son palais. Il regarde vers le bas sur toutes ces belles constructions, les jardins suspendus de Babylone et toutes ces choses-là. Mais son problème est toujours là. Il croit que sa puissance et sa gloire, c'est pour lui-même. C'est exactement le problème que Dieu vient de cibler. Et tout de suite, Dieu enlève sa puissance et sa gloire et sa raison. Et il se trouve dans le champ comme une bête sauvage et honteuse. Pour l'homme qui se croyait un Dieu, toute sa dignité humaine sera enlevée afin qu'il s'humilie devant Dieu. Mais n'oublions pas que cette humiliation a un but, pour qu'il reconnaisse que Dieu règne sur le royaume des hommes. Ce n'est pas simplement un jugement. Dieu veut qu'il se repente et soit restauré. Dieu veut lui montrer sa grâce. Même s'il s'agit de sa 4e opportunité de se repentir. Et c'est ce qui se passe. Lisons versets 31 à 34 à la fin de l'histoire. Verset 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues, Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Nos deux amis, Ashpenaz et Joseph, sont maintenant bouche bée devant le télé. À l'encontre de toutes leurs attentes, le roi a appris la leçon. Il reconnaît que l'humanité est impuissante devant l'autorité du roi ultime du ciel. Et il cherche maintenant à rendre toute la gloire à Dieu. Il est même reconnaissant que Dieu peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Je crois qu'il s'agit d'une vraie conversion ici. Son humiliation était pénible, oui, mais ça valait la peine. Le pire dictateur païen du monde ancien a connu le pardon de Dieu. C'est merveilleux. Au début, nous avons posé la question, comment résoudre le problème des dictateurs? Je crois que la réponse de ce passage est assez simple, peut-être presque trop simple. Dieu règne sur les dictateurs. Dieu règne sur les dictateurs, grands et petits. Ça semble presque trop simple. Mais les implications pour nos vies sont profondes. Et nous allons maintenant juste passer un peu de temps pour considérer trois grandes implications pour nos vies. Désolé que je n'ai pas les titres sur l'écran, mais je vais vous dire les titres, les sous-titres. Donc, la leçon, Dieu règne sur les dictateurs. Alors, premièrement, ne les craignez pas. Ne les craignez pas. Notre ami Joseph est un juif en exil qui a dû subir la pression et la persécution des dictateurs effrayants. Mais si Dieu règne sur les dictateurs, alors quel réconfort, quelle motivation à la fidélité, quelle motivation de prier même pour la conversion des autorités païennes. Et nous aussi, nous sommes des croyants qui vivent en exil, dans l'ère des dictateurs. Est-ce que vous avez saisi la vérité que Dieu règne sur toute autorité humaine, grand et petit? Alors, ne les craignez pas. Croyez-vous que Dieu règne sur toute autorité? Croyez-vous que les autorités ne peuvent rien faire sans la permission de Dieu? Croyez-vous que Dieu maîtrise tout détail? Croyez-vous qu'il règne sur les rois, les gouvernements, les terroristes, les chefs de travail, les professeurs, les médias, la police, les tribunaux, les chefs religieux et les personnes orgueilleuses de notre entourage qui essaient de nous contrôler, nous influencer. Un ami à moi s'est une fois trouvé dans une situation très difficile au travail. Lors d'une conversation avec ses collègues, on a découvert qu'il n'est pas en faveur des relations homosexuelles pour des raisons bibliques. Et on a transmis cette information à son chef de travail, qui lui a demandé une explication. C'est une vraie histoire. Mon ami savait qu'il était en danger d'une réprimande officielle. Et malgré la pression, il a pu affirmer ce qu'il croyait devant son chef. Et dans ce cas-là, heureusement, le chef a choisi de laisser tomber l'affaire. Mais qu'est-ce qui a permis à mon ami d'agir ainsi? Il a sans doute compris que Dieu règne sur toute autorité humaine. Il n'avait pas besoin de craindre son chef. Il est simplement un minuscule grain de poussière, impuissant, dans les mains du vrai roi du ciel. Dieu était souverain dans la situation. Et mon ami a choisi de rester fidèle à celui qui a la vraie autorité. J'ai été moi-même dans une situation semblable devant une chef de travail hostile qui voulait que je ne parle plus ouvertement de ma foi avec mes collègues. Et ça m'a beaucoup aidé de me rappeler que Dieu règne sur les autorités humaines. Et vous pourriez penser sans doute de vos propres exemples. Et l'histoire de Daniel 4 nous rappelle que Dieu peut même humilier et convertir et sauver les petits dictateurs dans nos vies. Au lieu de craindre et de détester ma chef de travail, j'ai prié pour elle. Selon ma connaissance, elle n'est pas encore chrétienne, mais on ne sait jamais. Croyez-vous que Dieu peut humilier et sauver les petits dictateurs comme votre patron hostile, etc.? Est-ce que vous priez pour lui ou elle? Est-ce que vous seriez prêt à lui parler de Jésus? Deuxième grande leçon. Dieu règne sur les dictateurs. Alors, humiliez-vous. Humiliez-vous. Tout d'un coup, notre ami Ashpenaz est frappé de nouveau par le premier verset du passage qui dit très explicitement qu'il s'agit d'un message pour tous les peuples, pour tout peuple. Et le deuxième verset, Nebuchadnezzar a dit, « Il m'a semblé bon de vous faire connaître les signes et les miracles que le Dieu Très-Haut a accomplis vis-à-vis de moi. » Donc Nebuchadnezzar se présente dans cette histoire très ouvertement comme un modèle pour tout peuple, juif et païen, chrétien et non chrétien, car le problème du dictateur est dans le cœur de chacun. Et si, par exemple, si vous n'êtes pas chrétien ici ce matin, je ne connais pas tout le monde ici, et si vous n'êtes pas chrétien, Nebuchadnezzar se présente comme un modèle pour vous. Comme Ashpenaz, vous vivez comme si vous êtes l'autorité absolue dans votre vie, comme si vous êtes au centre de l'univers. Vous vivez pour votre propre gloire et Dieu vous appelle à se repentir devant lui, à chercher à vivre sous son autorité et pour sa gloire. Il est prêt à vous pardonner. Il vous aime tellement. Sinon, la Bible dit qu'il devra vous humilier un jour sous son jugement juste. Mais pour nous qui sommes chrétiens, nous pouvons nous réjouir que nous sommes déjà passés par une humiliation devant Dieu. Nous avons déjà accepté l'autorité et la gloire de Dieu pour nos vies. Mais ne soyons pas naïfs. Le petit dictateur vit toujours dans nos cœurs. Dans le livre d'un Pierre, dans le Nouveau Testament, c'est un livre qui décrit les chrétiens comme vivant dans l'exil sous des puissances hostiles. Et Pierre dit aux chrétiens, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. L'humilité devant la puissance de Dieu, c'est une bataille constante dans la vie chrétienne. Je le sais bien. Nous voulons contrôler nos vies. Nous voulons chercher notre propre gloire. Voici quelques exemples. Êtes-vous fâché lorsque l'ordinateur tombe en panne ou lorsque vos enfants vous énervent? On veut le contrôle. Êtes-vous anxieux face aux soucis financiers ou face à l'avenir? On veut le contrôle. Êtes-vous amer parce que vous avez raté une opportunité unique pour faire progresser votre carrière? On veut le contrôle. Voulez-vous instinctivement vous défendre dans une dispute, même si vous savez que vous avez tort? On veut la gloire. Est-ce que l'épanouissement personnel vous préoccupe? L'estime de soi et tout ça? On veut la gloire. Est-ce que l'idée de livrer votre vie complètement à Jésus vous fait peur? On veut le contrôle et la gloire. Et je m'identifie moi aussi avec ces choses, absolument. Nous ne croyons pas parfois que Dieu est bon et qu'il est juste et que c'est bien de se soumettre complètement à lui, de lui rendre la gloire en toutes circonstances. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Même si c'est la quatrième fois où, comme Nebuchadnezzar, il a déjà raté plusieurs opportunités de se repentir, Dieu est prêt à nous pardonner. Il est certainement prêt à nous pardonner grâce à la croix de Jésus et à transformer nous aussi pour vivre pour sa gloire. Juste avant de terminer, il y a une troisième piste que je ne peux pas laisser à côté. Une troisième grande implication pour nous. Dieu règne sur les dictateurs par l'intermédiaire de son roi humble. Par l'intermédiaire de son roi humble, je vais expliquer ce que je veux dire. Quelques années plus tard, sous le règne du roi Belshazzar, notre ami Joseph, le juif, est en train de regarder la vidéo du discours de Nebuchadnezzar pour la centième fois. Et il remarque qu'il avait une leçon, une autre leçon, qu'il avait oubliée. C'était dans le verset 17. Dieu règne sur le royaume des hommes et peut y faire accéder le plus bas des hommes. C'est intéressant, dit Joseph à lui-même. Je vois que l'humanité a besoin d'un roi humble qui respecte l'autorité de Dieu. C'est pourquoi Dieu a humilié Nebuchadnezzar pour qu'il soit un bon roi pour son empire. Mais maintenant il est mort et nous sommes sous le pouvoir d'un autre dictateur, Belshazzar. Si seulement Dieu pouvait susciter un roi même plus humble qui pourrait régner pour toujours sur toute l'humanité. Eh bien, Daniel n'est pas silencieux concernant la promesse de ce roi humble. Il est le fils de l'homme dans chapitre 7 qui règne sur l'humanité. Il est Jésus-Christ, le roi humble dont nous avons besoin. Je vais lire Philippiens 2, verset 7. Pas besoin de le mettre sur l'écran, je vais le lire. Reconnu comme un simple homme, Jésus s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus est l'être humain parfait qui a vécu dans l'humilité et pour la gloire de Dieu. Il s'est volontairement humilié à la croix pour payer le prix, pour notre orgueil. Et il règne maintenant, le roi puissant et glorieux du royaume de Dieu. Il est le roi humble dont nous avons besoin. Un roi qui fait grâce à tous ceux qui sont prêts à revenir à lui humblement et vivre sous son règne et pour sa gloire. Un roi parfaitement juste. Un roi rempli de compassion. Un roi qui protège son peuple. Un roi qui nous aime avec tendresse. Un roi qui nous invite à vivre pour toujours dans son royaume glorieux. Quelle est donc l'ultime solution au problème des dictateurs? C'est Jésus, l'anti-dictateur. Donc quand vous êtes face aux puissances hostiles, terrifiantes de ce monde, et face aux petits dictateurs dans votre cœur, venez humblement devant Jésus. Trouvez la joie et la paix en pliant le genou devant notre roi humble et éternel. Prions juste pour venir. Oui, merci Seigneur pour ce message. Merci pour notre roi humble, Jésus. Nous ne méritons pas sa grâce. Nous ne méritons pas l'opportunité de se repentir et de vivre sous son royaume glorieux. Merci que tu nous donnes l'opportunité de nous repentir devant Jésus, que nous soyons humbles et que nous puissions plier le genou devant Jésus et que nous ne soyons pas terrifiés par les puissances hostiles de ce monde, sachant que Jésus maîtrise tout, que nous vivions dans la confiance et dans l'humilité, sachant que nous sommes dans le royaume de Jésus déjà et pour toujours. Et je prie au nom de Jésus. Amen.